Alors, bonsoir à tous. C'est un réel privilège et un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle session de notre cours Bibla sur l'Épître de Paul aux Romains. Et ce soir, nous entamons un nouveau bloc de chapitres, c'est-à-dire les chapitres 6 à 8. Mais bien entendu, nous nous préoccuperons de la première partie du chapitre 6. Pour ce soir, on a déjà vu dans les chapitres 1 à 3 de cet épître-là le thème de la condamnation qui fait partie du message de l'Évangile. Dans les chapitres 4 et 5, nous avons parlé surtout de justification. Et puis maintenant, nous entrons dans un bloc qui nous parle d'affranchissement et de sanctification. Donc, ce sera un plaisir d'entendre ce que le frère Pierre-Étienne Pfister aura à nous dire à ce sujet. Vous aurez déjà sur le site de Biblos une courte biographie de notre frère. Je veux simplement souligner qu'il est aussi l'auteur d'un petit livre très christocentrique, c'est-à-dire Christ dans l'Église. Alors, si vous êtes capable de vous procurer ce petit ouvrage, est très intéressant. Et puis, c'est le sens pratique très connu de Pierre-Étienne qui veut souligner l'importance et la présence et la plénitude de Christ dans l'Église avec ce petit ouvrage-là. Il est aussi bien impliqué dans son assemblée à Renan. Il a été missionnaire pendant de très nombreuses années, des décennies au Congo, et c'est là que je l'ai connu aussi et que j'ai eu le privilège de servir le Seigneur avec lui, où j'ai pu aussi apprendre comme un enfant avec un papa spirituel, bien des choses dans le Seigneur. Alors, permettez-moi d'abord de prier et ensuite je cède la parole à Pierre-Étienne. Seigneur notre Dieu, quel privilège pour nous de pouvoir étudier ce livre-là ensemble dans le contexte de ce cours. Merci Seigneur pour cette liberté que tu nous donnes de pouvoir avoir accès à toute cette technologie, à cette étude ensemble. On te demande ta direction pour parler à nos cœurs. On a besoin d'entendre ta voix d'une façon ou d'une autre. Seigneur, d'être affermi dans les Saintes Écritures. Que la doctrine de l'Évangile soit parfaitement claire dans nos esprits, dans nos cœurs, et surtout que l'Évangile soit vécu dans nos vies. Alors, Seigneur, on te remet notre frère Pierre-Étienne ce soir entre tes mains, et c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.
Bienvenue à chacune et chacun pour cette sixième session de Biblos 2024 sur l'Épître aux Romains. J'aimerais vous saluer tous, mais au nom du Seigneur, mais saluer particulièrement mes frères et sœurs d'Afrique, où j'ai vécu depuis 1980 jusqu'à il y a 2 ans, comme Gilles l'a dit, et c'est avec eux que j'ai eu la joie de très nombreuses fois de lire cet Épître aux Romains, de m'émerveiller devant ce message que le Seigneur nous donne de son plan pour nos vies. Alors, on a pu dire de cette épître qu'elle est le cinquième évangile et elle est en fait la bonne nouvelle expliquée. Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord dire un grand merci à Claude-Henri André, qui est la cheville ouvrière de ces rencontres Biblos et de bien d'autres. J'aimerais aussi remercier Clément Dupertuis qui, avec toute sa compétence, a remanié la présentation PowerPoint et puis aussi à mon épouse pour toute la patience nécessaire pour accompagner ce temps de préparation. Alors, j'aimerais dire évidemment merci au comité Biblos pour la confiance témoignée à participer une nouvelle fois à cette présentation de ce livre magnifique qu'est l'Épître aux Romains. Et pour cette découverte du plan de Dieu pour nos vies, un plan qui semble nous dépasser, et en parler, en fait, m'humilie et m'interroge sur ma manière de vivre ce plan de Dieu pour moi. L'écrivain Paul nous rappelle aux profondeurs des richesses et de la sagesse de Dieu, que ses jugements sont insondables, ses voies impénétrables, car qui a connu la pensée du Seigneur? Et il ajoute, car tout est de lui et par lui et pour lui, à lui soit la gloire éternellement. Cette lettre aux Romains, elle est passionnante. Elle est un livre Permettez-moi de le rappeler, qui a marqué l'histoire, qui a bouleversé des vies. Augustin, en 380, alors qu'il menait une vie dissolue, est interpellé et se convertit par la lecture de Romains 13, verset 13, Marchons honnêtement comme en plein jour. En 1517, un moine allemand, Martin Luther, comprend enfin la signification de l'expression la justice de Dieu et l'affirmation que, que le juste vivra par la foi. Et la réforme éclate. En 1738, l'évangéliste John Wesley reçoit l'assurance de son salut grâce à la préface du commentaire de Luther sur l'Épître aux Romains. Quant à Jean Calvin, il écrit la compréhension de cette épître ouvre la porte à celle de toute l'écriture. Frédéric Godet, enfin, décrit cette épître comme la cathédrale de la foi chrétienne. Comment l'homme sera-t-il juste? Devant Dieu, demandait Job. L'Épître aux Romains va y répondre au cours de cette présentation qui est celle de l'Évangile. L'apôtre Paul semble réfuter plusieurs des objections suscitées par l'Évangile de la grâce de Dieu, et cette bonne nouvelle du salut par grâce, reçue au moyen de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et non par les œuvres, est présentée. Alors, Gilles l'a rappelé, après la présentation de l'Évangile, eh bien, on a vu le besoin de l'Évangile, et puis ensuite la solution de l'Évangile, la justification. Et maintenant, on en arrive à ce groupe des chapitres 6 à 8, dans lequel on verra l'expérience de l'Évangile, c'est-à-dire la sanctification par la libération. La sanctification elle-même, présentée particulièrement au chapitre 8, sera présentée au mois de janvier. Et aujourd'hui, et dans 15 jours, Dieu voulant, eh bien, nous étudierons les chapitres 6 et 7. Ces chapitres se situent par rapport à ce qu'on aurait pu dire le fondement et le contenu de l'Évangile. D'un côté, les chapitres 3 à 5, de l'autre, les chapitres 6 à 8. D'un côté, la solution de l'Évangile, de l'autre, l'expérience de l'Évangile. Dans la première partie que Brad nous a présentée, eh bien, on a vu la substitution. Christ est mort pour moi, il est mort pour mes péchés, il m'a délivré de la punition des péchés. Dans le chapitre que nous allons voir que il y a une identification, nous sommes morts avec Christ. Il est mort au péché, il me délivre du pouvoir du péché. Il s'ensuit, dans la première partie, une justification. La justice m'est imputée, elle est mise sur mon compte. Je suis sauvé par sa mort et réconcilié avec Dieu. Nous allons découvrir dans le groupe de chapitres que nous entamons aujourd'hui la justice incorporée, qu'elle fait partie de ma vie, que je suis sauvé par sa vie et victorieux en lui. Alors qu'on demandait à un prédicateur bien connu, Lloyd Jones, qui a prêché à Westminster Chapel à Londres pendant des années, on lui demandait de présenter l'Épître aux Romains, il avait refusé en disant qu'il ne pouvait pas la présenter tant qu'il n'avait pas compris le chapitre 6. Quand il a estimé que c'était le cas, il a présenté 22 prédications sur ce seul chapitre, et celles-ci font partie d'une publication de 5 volumes de ses prêches sur les chapitres 3 à 8. Revenons donc à notre section. Et on peut dire que du chapitre 6 au chapitre 8, c'est la sanctification par l'affranchissement et c'est l'œuvre de Dieu en nous pour nous délivrer du pouvoir du péché. Cette œuvre, comme on l'a dit, fait suite à l'œuvre de Dieu pour nous, qui nous a délivrés de la punition du péché, et c'est dans l'attente de cette délivrance qui nous attend quand nous serons avec le Seigneur, la délivrance de la présence du Seigneur, de la présence du péché, excusez-moi. Délivrance de la punition, délivrance du pouvoir, délivrance de la présence. 3P. Le programme de la première partie sera d'étudier les versets 1 à 5, mais toute la rencontre aura lieu, pardon, sur les chapitres 6, 1 à 23. En Christ, libéré du péché. Mais aujourd'hui, nous verrons mourir pour vivre, le grand échange, les versets 1 à 5, vivre ce que je suis, les versets 6 à 14. La prochaine fois, nous continuerons sur le règne de la grâce, chapitre 6, versets 15 à 23, et le chapitre 7, en Christ, libéré de la loi. En Christ, libéré du pouvoir du péché. Et comme je l'ai dit, la première partie, le premier paragraphe, si on veut le bien, a été intitulé Mourir pour vivre ou le grand échange. On se souvient que le chapitre 5, qui nous avait parlé de la justification, a été conclu par ces versets 12 à 21 qui nous parlaient de deux humanités avec deux chefs de file, Adam et Christ, et deux règnes, le règne du péché et le règne de la grâce. Mais au verset 20, il y a un superlatif sur la prééminence du plan de Dieu. Là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Le chapitre 6, qui nous parle de cette libération du péché en Christ, va commencer par cette présentation de mourir pour vivre. Et j'ai fait un petit plan des versets 1 à 5 où on verra d'abord une interrogation, ensuite la réponse immédiate, le pourquoi, la conséquence, comment vivre dans le péché, et puis ensuite une présentation de la mort et de la résurrection avec Christ, parce que nous sommes unis, assimilés et identifiés à Christ. Mourir pour vivre. Les deux premiers versets nous disent, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Immédiatement, nous nous trouvons face à deux termes. Le péché, qui, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, dans la majorité des cas, peut être traduit par manquer le but. Mais il y a d'un côté les péchés, qui sont les actes, on pourrait dire les fruits, les mauvais fruits, et puis d'un autre côté le péché, le principe ou la racine. Mais on le sait, la conséquence du péché, c'est la mort. Et la mort veut dire séparation. Alors, on en revient à notre texte et Ce texte nous commence par une question. Une question qui est liée à ce que l'apôtre venait de dire. Là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Alors, après cette présentation, eh bien, on pourrait se permettre une interrogation. Faut-il pécher et même persister dans le péché, comme certaines traductions le disent? Est-ce que ce n'est pas une occasion pour Dieu de manifester sa grâce? Mais la réponse immédiate, qu'il n'en soit rien. C'est impossible. C'est incohérent. Pourquoi? Parce que nous sommes morts au péché. Nous sommes délivrés de la punition du péché. On l'a vu à la section précédente. Nous sommes délivrés du pouvoir du péché. C'est ce qu'on va voir au travers de cette section de l'affranchissement pour la sanctification. Et puis, nous serons délivrés de la présence du péché dans la gloire. Alors, pourquoi nous sommes morts au péché, délivrés de son pouvoir? Nous ne sommes plus sous son autorité, sous son contrôle, sous sa puissance. Nous avons même changé de royaume. Colossiens 1, 13 nous dit qu'il nous a transportés du pouvoir des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Éphésiens 2, 6 nous dit que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes dans un environnement qui nous libère de l'obligation et de la fatalité du péché. Et puis, non seulement nous sommes morts au péché, mais nous sommes morts à la loi et à ses défis, c'est ce qu'on verra dans le chapitre 7. Et puis, nous sommes morts au monde, c'est ce que Galates 6 nous dit. Le chapitre 5 nous avait rappelé que nous ne sommes plus en Adam, mais que nous sommes en Christ. Et s'il en est ainsi, tout ce que nous sommes maintenant déjà, nous le sommes en lui. Lui a dit, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Alors nous sommes morts au péché et il n'est pas possible que nous puissions continuer, persévérer dans le péché. Parce qu'une vie chrétienne, elle commence par une conversion. Et cette conversion, ce n'est pas une simple adhésion. C'est une prise de conscience de l'horreur du péché. Ce péché qui a mis mon Sauveur sur la croix. Et même qui m'amène alors à une appréciation de cette œuvre de la croix. Lui qui a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui qui a dû passer par là à cause de moi. Et ça m'amène alors à une repentance qui reconnaît mon péché, qui s'en humilie, qui s'en détourne. Une repentance qui se tourne vers lui comme sauveur et comme Seigneur. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie. Mort et ressuscité avec Christ. Voilà la deuxième sous-section. Et nous allons lire maintenant les versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Paul nous parle de mort et de résurrection. Mais pour nous en parler, il va nous parler d'un baptême. Et ce baptême, Il va nous le présenter comme le baptême en Christ ou le baptême en sa mort. En fait, c'est la préposition eis qui peut être traduite par en ou pour. Baptiser veut dire immerger, plonger, et le baptême produit ou manifeste un changement d'état. Ce baptême, eh bien, il a une spécificité selon qu'on traduit par cette préposition par en ou pour. Alors, la plupart des traducteurs ont traduit baptisé en Christ, mais certains ont quand même pris baptisé pour Christ. Alors, nous voulons parler d'abord de ce baptême pour Christ. Il semble plutôt correspondre au baptême d'eau, appelé aussi baptême chrétien. Il s'agit là de l'affirmation publique d'une fin, d'un terme d'existence et ainsi que d'un nouveau départ. Et il a été institué par le Seigneur, on le voit dans Matthieu 28, verset 19, en demandant de le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette pleine révélation de Dieu. Mais ce baptême, si il s'agit du baptême pour Christ dans notre passage, eh bien, peut nous placer devant un danger. Le danger d'interpréter les termes que nous venons de lire des versets 3 et 4, c'est-à-dire la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ avec Christ comme s'accomplissant au moment du baptême d'eau, et de lui attribuer alors l'illusion que ce baptême correspond à la nouvelle naissance. Il me semble qu'il est plus facile de comprendre, comme la plupart des traducteurs, que ce baptême est en Christ. Cela ôte l'équivoque et cela présente la réalité spirituelle du baptême. C'est d'ailleurs en harmonie avec le contexte. Et ce baptême, eh bien, fait référence, je dirais, à ce que Jean lui-même, Jean le baptiseur lui-même, disait, il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est la définition de ce baptême de l'Esprit, nous la trouvons dans 1 Corinthiens 12, au verset 13. Nous avons tous été baptisés par ou d'un seul esprit, en ou dans un seul corps. Le Saint-Esprit nous a immergés, plongés, incorporés au corps de Christ. Ainsi, nous sommes unis à Christ et unis en Christ. C'est un état, une position. De même que j'étais pleinement en Adam, et je n'y suis plus, je suis pleinement maintenant en Christ, uni à lui, uni dans sa mort, dans sa résurrection, dans sa vie et dans tout ce qu'il est. 1 Corinthiens 1, 30 nous dit maintenant que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sainteté, rédemption. Colossiens 2, verset 10 nous rappelle, vous avez tout pleinement en Christ. Quand Christ est mort, il s'est substitué à moi pour subir la condamnation que je méritais, la rétribution de mon péché. Il s'est identifié à moi sous le jugement, il m'en a libéré. Il a été fait péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. Mais quand Christ est mort, j'ai été identifié avec lui dans sa mort. Et ainsi, celui que j'étais est mort. Il n'existe plus. Si le texte nous dit baptisé en sa mort, il continue maintenant enseveli avec lui. Et si nous sommes ensevelis, eh bien, c'est que c'est une chose définitive et au passé. Mais si je suis mort, si je suis enseveli, ce n'est pas pour en rester là. L'objectif, et le baptême le montre, eh bien, l'objectif, c'est que si j'ai été plongé, c'est pour ressortir. Et j'ai été identifié avec Christ dans sa résurrection. Le passage obligé, c'était la mort avec Christ. Mais le plan de Dieu pour moi, c'est une nouveauté de vie. Et cela passe par l'identification à la résurrection de Christ. La résurrection, c'est la victoire de la vie sur la mort. Et Christ veut, a obtenu cette victoire. Et il veut que nous soyons victorieux avec lui et en lui. Il veut pour toi une vie qui manifeste la puissance de sa résurrection, une vie de victoire. On se souvient que dans Éphésiens, au chapitre 1, versets 19 et 20, il nous est parlé de l'excellente ou infinie grandeur de sa puissance qui s'est manifestée envers nous qui croyons, cette puissance qu'il a opérée ou déployée en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Eh bien, cette même puissance qui a été déployée dans la résurrection de Christ, c'est cette même puissance que Dieu met en quelque sorte à notre disposition. Je suis maintenant dans cette nouvelle vie. Tout est entièrement nouveau. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres dans le royaume et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Notre cité est dans les cieux. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Tous ces versets sont au présent ou au passé ou au présent, c'est-à-dire que il nous présente un acquis dont nous prenons possession potentiellement. Nous sommes identifiés à sa mort pour réaliser notre identification à sa résurrection, pour vivre de sa vie. Mais si nous lisons le texte, nous pouvons peut-être nous étonner de l'emploi du futur. Il nous est dit, et que je relise le verset, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alors, on peut se demander, mais est-ce que c'est le futur? Est-ce qu'il s'agit simplement de ce que nous allons vivre au ciel? Mais je crois que les versets que nous avons lus maintenant nous ont montré que c'était un fait acquis. Alors, il nous est dit maintenant que nous avons été faits une même plante avec lui. Et voilà. Le verset 3 et 4 nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Notre unité avec Christ est une unité telle que nous sommes pleinement assimilés ou identifiés à Christ, une unité telle que ce qui est vrai de lui est vrai de nous. Une même plante. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des arbres dans la forêt vierge, on le voyait, deux arbres qui se rapprochaient tellement qu'ils ne formaient plus que un. et on ne peut plus séparer l'un de l'autre. Et ici, il nous est dit, fais une même plante. Et j'ai été fait une même plante avec Christ. Je suis en lui, je suis avec lui, et il veut manifester sa vie en moi et au travers de moi. Alors, ce qui est vrai de lui est vrai de moi, ce qui est vrai de sa mort est vrai de moi, ce qui est vrai de son ensevelissement est vrai de moi, ce qui est vrai de sa résurrection est vrai de moi, et de même qu'il est vivant, je suis vivant. L'objectif de Dieu, c'est que nous vivions par lui, et nous sommes maintenant participants de la nature divine.
Merci Pierre-Étienne pour
Bonjour,
ces
bonjour.
premiers versets. C'est une question intéressante qui touche au baptême, Pierre-Étienne. Je voudrais donc d'abord merci pour cette présentation très fortifiante. Je voudrais savoir si quelqu'un qui s'est fait baptiser par aspersion en étant catholique et enfant, maintenant né de nouveau, doit-il refaire le baptême par immersion?
C'est une question qui peut se poser dans la pratique. Est-ce que la réponse n'est pas dans le fait de savoir quelle est la portée qu'on a donnée au baptême? Certains ont donné au baptême la valeur d'être la purification du péché originel. Il ne me semble pas que le baptême chrétien nous parle de cela. Le baptême chrétien nous paraît plutôt être là, quand il s'agit du baptême d'eau, pour manifester ce qui s'est passé, mais pour qu'il ait une valeur, eh bien, il faut qu'il y ait eu ce réel baptême spirituel. Que la personne soit morte et ressuscitée avec Christ. Ce n'est pas le baptême qui va la faire mourir, ce n'est pas le baptême qui va la faire ressusciter, le baptême en est le signe. Ainsi, je pense que quelqu'un qui voudrait se faire laver du péché originel, eh bien, je pense que ce n'est pas la même portée, ce n'est pas le même baptême dont on parle. Je ne sais pas si ça répond.
Oui, avec prudence. tout à fait. Et puis, une question toujours sur le baptême. Si j'ai bien compris, le baptême ne peut pas être associé à la nouvelle naissance, mais plutôt à la nouveauté de vie. Est-ce que tu fais une différence entre nouvelle naissance et nouveauté de vie?
Alors, le baptême réel. C'est la nouvelle naissance pour la nouveauté de vie, pour naître de nouveau. Mais ce n'est pas le baptême d'eau qui est cette nouvelle naissance. Il en est l'illustration. C'est vrai que Éphésiens nous dit il y a un seul baptême. Et dans un sens, le baptême d'eau n'est que la démonstration de la réalité qui s'est passée.
Parfait. Merci beaucoup, Pierre-Étienne, pour la réponse à ces deux questions qui étaient les deux questions que nous avions. Et puis maintenant, nous sommes 20h53. On va vous proposer 7 minutes de pause jusqu'à 21h. On reprendra pour la deuxième partie. À tout de suite.